Iritsana. C'est sur un film qui a été fait autour du changement climatique. Vous en saurez plus tout à l'heure. On finira avec les nouvelles du Kurdistan. Et avant, il y a Roberto ce soir dans les studios qui viendra nous parler des dernières événements, des derniers événements sur Marseille, notamment l'expulsion d'un lieu occupé par des migrants, puisque Roberto fait partie du collectif Migrants 13. Il nous en dira plus tout de suite, juste après l'agenda. L'agenda, on commence avec demain, dimanche 23 octobre, grande journée de nettoyage et végétalisation. Sur la plaine. La plaine, ce lieu, cette place au centre de Marseille qui est en lutte contre un projet de restructuration urbaine. On vous en parle souvent sur les ondes de Radio Zinzine ainsi que sur BAM Radio. Et il y a tout un tas de choses qui sont organisées en ce moment. Donc n'hésitez pas à y aller. Et en plus, a priori, la pluie devrait s'estomper d'ici demain matin. Dimanche 23 octobre, toujours à la Casa Consola, à 12h, bouffe de soutien aux camarades inculpés par la répression judiciaire. C'est les personnes qui ont été inculpées après être montées sur les voies, les voies de TGV, les voies de train à la gare Saint-Charles, suite à une manifestation de l'année dernière lors du mouvement social. Toujours dimanche demain, à 13h30, pour affirmer notre détermination à accueillir les migrants et à faire face à un rassemblement de l'extrême droite contre l'arrivée de migrants, c'est à la Tour d'Aigle. Donc rendez-vous demain devant l'école Lucie Aubrac. Je n'ai pas plus de détails que ça, mais pareil sur les ondes de Radio Zinzine, on en parlera beaucoup parce qu'il y a des gens qui suivent cette histoire de près. Mardi 25 octobre, c'est l'ère de la mer au 53 rue de la Joliesse. Et dans le deuxième, il y a rencontre-débat. C'est réfugiés d'hier, réfugiés d'aujourd'hui, organisé par SOS Méditerranée, la CIMAD et le collectif soutien Migrants 13. Et il est dit qu'alors que de nombreuses structures et nombreuses personnes agissent depuis longtemps pour l'accueil et le respect des réfugiés, de nouvelles émergences se mettent aussi en œuvre face à les situations de ces réfugiés, notamment en Méditerranée. Cette première rencontre est pour leur donner la parole et créer des synergies. Samedi 27 octobre à 19h30 à la Casa Consola, il y a une discussion avec un membre de la coopérative intégrale de Toulouse, causerie autour des coopératives intégrales, et c'est organisé par le groupe Germinal de la Fédération anarchiste. Alors, qu'est-ce qu'une coopérative intégrale? Ça sera l'occasion de le découvrir lors de cette rencontre. Pour faire très vite, c'est un lieu autogéré de manière économique et politique, et intégrale parce que son projet est de construire des services et outils communs pour subvenir aux besoins fondamentaux. Samedi 29 octobre, ça se passe à Marseille, c'est à l'abordage. À l'abordage, c'est pour redonner du souffle au mouvement social qui, pour le coup, en ce moment, est plutôt éteint puisqu'il a laissé place davantage à la manifestation de policiers. Donc samedi 29 octobre à 11h, discussion débat sur le thème comment lutter dans la précarité, c'est la Darla Mifa. 15h, manif, rendez-vous au cours Julien. 19h, apéro, banquet, concert, etc. J'ai pas les détails, mais vous trouvez tout ça sur internet. Dimanche 14h, discussion retour sur le mouvement lycéen. 17h, discussion, combien faut-il être pour prendre une ville? 20h, banquet et projection. Et on finit avec toujours ce samedi 29 octobre. Là, c'est un peu plus tôt, c'est le matin à 11h. C'est un rendez-vous, une manifestation sur le parking de l'Escalette qui est appelé par Union Littorale. Et c'est contre un projet d'immobilière qui veut s'implanter au cœur du parc national des Calanques. Il s'agit du terrain dit la Belvédère, le Belvédère, pardon, où il y a plusieurs hectares contenant notamment un ancien blockhaus près du petit fort de l'Escalette sur la route des Goudes. Donc n'hésitez pas à y aller. Il y a tout un tas de choses à faire à Marseille. J'ai pas tout dit. N'hésitez pas non plus à aller sur le site de Mille Bâbord où vous retrouvez toutes ces informations. Et ben voilà, c'est fini pour l'agenda de la semaine. Donc on t'accueille ce soir, Roberto, dans les studios de BAM Radio à Marseille. Bonsoir.
Bonsoir hein, à tous et à toutes.
Et donc, tu es venu nous parler des derniers événements qui sont passés dans cette ville. Alors, juste pour faire une rapide mise en contexte, il faut rappeler que quand même, là, c'est assez particulier. Enfin, c'est assez particulier. Il y a plein de choses qui s'enchaînent en ce moment. Mais là, il y a notamment Calais qui va être expulsé à partir de lundi. Donc, quand même, 6 400 migrants qui vont être expulsés de cette jungle de Calais. Et l'État s'est donné une semaine pour y parvenir. Et ces migrants seront répartis dans toutes les régions de France, hors la France, hors. hors la Corse, pardon, avec tout un système de gestion des populations aussi, pour les envoyer autre part en France et pour les refouler de Calais. Et pour dire aussi qu'il y a énormément de tensions, là on a parlé de la Tour d'Aigle où il y a un rassemblement organisé par pas mal de gens pour accueillir les migrants. Et ça, on en parlera plus aussi sur Radio Zinzine et sûrement aux informations dimanche soir. Et juste pour dire que dans une petite commune de l'Hérault, c'est à Saint-Bosile-de-Putois, il y a aujourd'hui un maire qui a menacé de démissionner parce qu'il y a 87 migrants qui vont arriver dans la commune de 1200 habitants en argumentant sur le fait que cela allait troubler, provoquer potentiellement des troubles à l'ordre public. Donc on voit bien toute la tension qu'il y a aujourd'hui sur le territoire national en France, en Europe en général, autour de la question migratoire. Et donc toi, tu es là pour nous parler plus spécifiquement de Marseille, parce qu'il s'est passé tout un tas de choses cette semaine.
Et oui, en fait, cette semaine, elle a été bien chargée à Marseille. Déjà, il faut dire qu'il y a un immeuble dans la ville, à Roussante, à côté de Vieux-Port, qui était expulsable par ordonnance de la préfecture et suite à un procès au tribunal depuis le 15 octobre. Et du coup, depuis le 15 octobre, l'immeuble est expulsable et les personnes qui étaient à l'intérieur, c'était des demandeurs d'asile qui avaient déjà demandé une place en CADA et ils ont reçu toujours des refus ou des délais de plus d'un an. Et ils ont été expulsés, les personnes à l'intérieur, et ils n'ont toujours pas de solution. Mais pour une fois, ils ont décidé de résister parce qu'ils croient qu'une place en foyer ou des appartes, il y en a vide, il y en a de partout, c'est leur droit. C'est pour ça qu'après, les migrants avec des solidaires, ils se sont déplacés à l'OFI, devant les portes de l'OFI, et ils sont aller retourner les problèmes là-bas.
Tu peux dire ce que c'est l'OFI?
L'OFI, c'est l'OFI, il a un nom très drôle, il faut dire. Et c'est l'Office des Français de l'immigration et de l'intégration. Et du coup, leur intégration nous a fermé les rideaux de faire en face. Du coup, on est allé les voir, ils nous ont fermé les portes. Et il y a juste une adjointe de la directrice qui a voulu nous parler. En nous expliquant que ce n'était pas l'OFI qui avait ordonné l'expulsion de l'immeuble, comme sinon on leur adressait la faute de l'expulsion. On leur adresse la faute des délais de plus d'un an. Déjà à l'OFPRA, les gens ils attendent plus d'un an, deux ans pour la réponse à leur demande d'asile. En plus, les places en CADA ils sont données sur des critères totalement arbitraires et aléatoires. Et les gens, les migrants et les migrantes, ils attendent pendant plus de 8 mois, un an, parfois c'est un an et demi, avant d'avoir une réponse négative et du coup de rester à la rue. Mmh. Et du coup, ils sont punis juste pour le fait de s'organiser, du coup de réquisitionner des immeubles vides et d'y dormir.
Ça faisait combien de temps qu'ils étaient dans cet immeuble?
L'immeuble, il avait été ouvert en février et il a été expulsé la semaine dernière. À 10 jours de la trêve hivernale, il y a une quinzaine de personnes qui sont laissées à la rue. À 10 jours de début novembre, le début de la trêve hivernale, et l'OFI n'aura pas trouvé une solution. Du coup, la réponse qu'on a eue devant les portes de l'OFI par l'adjointe de la directrice a été scandaleuse, comme quoi elle allait informer la directrice du problème comme s'ils n'étaient pas au courant, alors qu'ils ont déjà fait les démarches. Et comme eux, en fait, on a ramené un million de problèmes, parce que comme eux, il y a tous les jours des milliers de personnes qui attendent une place en CADA. Il y a des foyers vides, mais qui, pour respecter des normes, ils sont pas utilisés. Il y a des possibilités d'accueil dans les apparts, dans des apparts utilisables pour l'hébergement. Les mesures ne sont pas prises. Et par contre, on a une augmentation de la méfiance institutionnelle, du racisme d'État, en fait, par les institutions, par les médias officiels. Et
il y avait beaucoup de gens au rassemblement?
Au rassemblement, on est allé l'après-midi, il y avait une cinquantaine de personnes. Mmh. Et plusieurs associations qui font la pression depuis des années sur la question des mineurs, parce que dans cet immeuble, en fait, il a eu un discours assez particulier. La question des mineurs isolés étrangers, parce que l'ADAP, qui est un bureau une association chargée par les départements, par la, les conseils départementaux de la prise en charge des mineurs. On rappelle que la loi impose à l'État une prise en charge immédiate et complète, c'est-à-dire accès aux soins, à l'éducation, scolarisation et un abri, dans les 24 heures pour des mineurs. Alors qu'il y a une centaine de mineurs, à chaque fois, ils sont renvoyés dans des squats ou dans des lieux d'accueil assez précaires. Et pour ça, il y a eu aussi des décisions du tribunal qui ont condamné les départements et condamné aussi les responsables du fait de ne pas respecter la loi. Et en plus, ils se déchargent du problème en envoyant des mineurs isolés, étrangers, dans des squats où après ils se font virer par les mêmes institutions.
Et par rapport à la ville de Marseille, on a une idée un peu de combien ça représente de personnes, de mineurs isolés ou de migrants en général?
Le problème, il est assez, ouais, il est difficile à chiffrer parce qu'après, il y a quand même tout un réseau de solidarité diffuse, heureusement, qui fait en sorte que aussi il y a des mineurs qui sont pris en charge par des solidaires ou des gens qui s'intéressent et ou alors que eux-mêmes ils trouvent des solutions en fait, parce qu'ils trouvent des solutions de rester dans des immeubles vides ou des souvent on les voit de partout trouver des solutions et se démerder et en même temps chercher d'escaper de s'enfuir de la répression parce que en fait c'est à 16 ans c'est pas évident de se retrouver sans un toit pendant l'hiver. L'année dernière, avec les collectifs, on est rentré en contact en même temps avec une cinquantaine de mineurs qui n'étaient pas à l'abri pendant les mois depuis janvier jusqu'à mars. Ils n'ont pas été mis à l'abri. Et juste les migrants avec lesquels on est rentré en contact, ils étaient en cinquantaine. Du coup, les problèmes à Marseille, en fait, ça doit se compter sur l'ordre des centaines et des centaines de migrants, des mineurs.
Et tu as parlé d'associations aussi solidaires qui soutiennent, peut-être on peut les citer aussi, savoir si les gens sont intéressés aussi pour...
Il y a beaucoup d'associations qui s'intéressent aux problèmes des mineurs isolés à l'étranger. Nous, on a fait aussi des campagnes ensemble, et notamment la CIMAD avec la RSF 13, et qui font un boulot aussi des signalations des mineurs étrangers isolés, notamment dans les écoles et de réinsertion dans des écoles. Mais les campagnes qu'on a fait récemment, c'est pour mettre la pression aux institutions de s'intéresser aux problèmes et en même temps à l'ADAP, qui est l'association en fait, qui a pris les marchés pour la gestion des mineurs étrangers isolés, ou une grosse partie de ces mineurs. Et elle, on sait bien qu'elle n'a pas les moyens pour accueillir plus de mineurs, mais elle n'a jamais pris une position officielle, elle ne s'est jamais déclarée scandalisée de la situation qui passe, qui n'a pas pris une position nette face à les migrants et les mineurs qui vont voir l'ADAP, ils se font systématiquement renvoyer, soit dehors, directement dehors. Soit s'ils ont des conseils c'est vers des squats, la situation elle est assez folle.
Ouais, et puis on voit en plus, comme j'ai dit en introduction, vu l'ambiance sociale qu'il y a actuellement, c'est sûr que les institutions publiques, même si à des moments donnés elles font défaut dans leur mission, elles ont le vent en poupe, on va dire, de manière idéologique, dans le sens où aujourd'hui, ne pas s'occuper des migrants, c'est un peu légitimé par toute cette ambiance médiatique, raciste, etc., qui fait que du coup, bah, c'est un problème dont on, enfin, c'est vu comme un problème dont on parle toujours de manière négative, et il n'y a absolument jamais de perspective, de solutions qui sont apportées.
Voilà, c'est aussi la vie de tous les jours face à quoi il se retrouve tous les jours, c'est-à-dire une absence d'intérêt de part de l'institution, et plutôt, moi je dénoncerais la campagne institutionnelle et médiatique de méfiance envers les réfugiés, comme juste basée sur des chiffres, sur l'effet des taxes, taux d'acceptation, comme une invasion Il faut arrêter de dire ça, il faut arrêter de créer une méfiance quotidienne envers les migrants. Il faut trouver des solutions, il faut les trouver avec eux et elles. Et
voilà. Oui, oui. Et en termes de, enfin, là tu l'as assez dit, la situation est malheureusement assez bouchée. En termes de perspective, en termes de rapport de force, toi tu vois un peu des choses là-dedans qui se dessinent ou c'est vraiment compliqué?
Après, jamais été trop optimiste dans mes pensées, mais c'est clair que si l'année dernière il y a eu un certain intérêt par rapport à la situation des migrants suite à la fermeture de la frontière franco-italienne à Ventimiglia. Et du coup, il y avait eu des vagues de solidarité parce que, en fait, la situation nous concernait même à Marseille assez de près. Cette année, après tout ce qui s'est passé cette année, moi, je vois aussi encore une méfiance, je dirais, induite par la société. Assez forte, auquel on peut répondre juste par un réseau de la construction d'un réseau de solidarité, un réseau de confiance, un réseau de solidarité et d'entraide entre les gens, parce que on peut aussi se voir précaire nous aussi comme les migrants. Il y a qui est plus précaire que des autres, bien sûr, mais s'organiser entre eux.
Ouais, faut abattre ces frontières entre ce fantasme qu'il peut y avoir. Nous, et là, t'es peut-être t'as des, je sais pas s'il y a des gens intéressés par ce que vous faites. Enfin, à la radio aussi, on en parle beaucoup sur Radio Zinzine. Hein, ça va aussi dans le sens d'une information et d'une désinformation, j'allais dire, pour déconstruire un peu ces schémas de pensée traditionnels qui sont dits dans les grands médias. Et est-ce qu'il y a des dates un peu prévues sur Marseille, des rendez-vous
Déjà, il y a le rendez-vous. En fait, vu l'importance de la question des mineurs, on va se donner un peu de temps pour organiser une manifestation face à cette situation, du coup, contre les conseils départementaux et l'ADAP. Donc, on va publier la date de la manif, du rassemblement qu'on va faire, mais vous pouvez suivre sur la page Facebook du collectif la date et l'heure du rassemblement. Et il y aura sûrement des mobilisations face à l'expulsion de la jungle si, comme déclaré, comme tu en as parlé tout à l'heure, elle sera expulsée à partir de lundi. Du coup, il y aura ça aussi, ça va toucher de près tout le monde. Il y a des migrants qui vont être déplacés dans des CAO. Il y a deux CAO qui ont ouvert à Marseille aussi. La situation, ça se prépare. Pour les gens qui essaient de résister sous la jungle, les centres de rétention administrative de toute la France, de tous les territoires, ils ont été vidés. Du coup, un signe peut-être qu'ils vont aller se remplir assez vite. Et du coup, il y a tout un dispositif qui s'est préparé. Et voilà, aussi une réponse de la population par des mouvements assez xénophobes, je dirais, qui sont dispo à accueillir. Ils sont victimes eux-mêmes de la campagne médiatique qu'on fait sur eux, mais à un moment donné, il faut prendre une position, il faut...
Et aussi pour rappeler, je le dis en début d'émission, mais c'était pas en direct sur Zinzine, donc là je le redis, c'est mardi 25 octobre, donc c'est ce mardi-là, c'est au Théâtre de la Mer à Marseille, au 53 rue de la Joliette, dans le 2e arrondissement. C'est une rencontre organisée par SOS Méditerranée, la CIMAD et le collectif Migrante 13. Et l'intitulé donc de ces rencontres, débats réfugiés d'hier et d'aujourd'hui, c'est, enfin l'invitation dit, alors qu'il y a de nombreuses structures et de nombreuses personnes qui agissent depuis longtemps pour l'accueil et les réfugiés, le respect des réfugiés, de nouvelles émergences se mettent à l'œuvre face à la situation des réfugiés, notamment en Méditerranée. Cette première rencontre est de leur donner la parole et de créer des synergies. Donc la proposition assez intéressante, c'est de leur donner la parole, ce qui est aussi rare, ce qui est très important à faire, parce qu'on en parle encore une fois toujours dans le discours médiatique comme des gens de loin, et on oublie aussi que ce sont des personnes, c'est des sujets politiques qui pensent des choses de cette situation, qui ont énormément de choses à dire, et commençons par les écouter.
Voilà, de leur donner la parole sur déjà dans les quotidiens, ce qui représente leurs exigences et leurs envies, ce qui n'est pas fréquent dans les entretiens off, c'est des personnes qui, les seuls rapports avec les institutions, c'est pour la demande d'asile. Du coup, ça consiste en des interrogatoires. En fait, t'es obligé de presque d'éprouver que t'es pas menteur dans ta déclaration. Et ils sont obligés à se voir la porte fermée lorsqu'ils demandent une place en CADA. En fait, l'approche, la vision des choses qu'ils ont, c'est pas du tout évidente. Et d'assumer une bataille aussi politique face à cette situation, parce que ça veut dire s'exposer aussi et prendre ses responsabilités, plus que des Européens ou des gens qui ont des papiers ou qui ont déjà une nationalité.
D'où l'intérêt des soutiens.
Voilà. Voilà.
Et ben, merci Roberto. Si tu veux rajouter quelque chose ou tu pourras revenir sur les ondes de Radio Zinzine, oui. Toi ou quelqu'un d'autre, parce que les gens du collectif Migrant 13, on vous invite souvent et heureusement sur nos ondes et on suit de près ce qui se passe. Ben, merci de ta venue et peut-être
merci à vous.
Dernière chose encore, mais on le fait souvent, mais on va le refaire encore. Si tu peux donner une adresse, s'il y a des gens du collectif qui sont intéressés par le collectif Migrant 13. Je crois qu'il y a un Facebook.
Il y a un Facebook de collectif. Du coup, c'est Soutien Migrant 13 El Mamba, la page Facebook. Et on publie toutes les dates des rendez-vous, des mobilisations. Du coup, ça sera pour la question des mineurs et pour l'expulsion de la jungle lundi soir. Du coup, on prévient déjà si la jungle sera expulsée. On va se donner le rendez-vous les jours même à lieu de définir. Définir. Et la mail du collectif, que c'est soutienmigrant13@riseup.net.
.net, ouais. Et ben merci beaucoup d'être venu. À bientôt.
Et merci à vous de l'invitation. These are the times that try men's souls. In the course of our nation's history, the people of rallied bravely whenever the rights of men have been threatened. Today, a new crisis has arisen. Citizens, hear me out. This could happen to you.
Et de retour en direct sur les ondes de BAM Radio, on écoute tout de suite une interview avec Sandra et Pascal. Je vous laisse la surprise. Ça dure une trentaine de minutes. À tout de suite. Bonjour Pascal et Sandra, on est aujourd'hui avec vous sur les ondes de Radio Zinzine parce que vous êtes en train de préparer un film. Mais j'ai pas envie d'en dire plus, je vais vous laisser présenter votre projet.
Donc bonjour, donc moi je suis Sandra et donc je co-réalise avec Pascal ce film qui s'appelle Irine Sina, le cri de la génération climat. Et en fait ce film retrace une année et demie de mobilisation pour le climat dans le cadre d'un mouvement qui s'appelle Alternativa.
Bonjour et bonjour aux auditeurs de Zinzine. Alors en effet, ce film, on l'a tourné pendant un an et demi, depuis janvier 2015. Et on a suivi à la fois le tour Alternativa qui est parti de Bayonne, qui est passé par Marseille. Ensuite, on les a suivis jusqu'à Paris, après 5600 kilomètres. On a suivi aussi toute la partie COP21, donc tout l'aspect politique qui est évoqué dans ce film. Et puis enfin, la dernière partie du film porte sur le blocage de Pau et du sommet des pétroliers de Pau par plus de 600 militants. Voilà. Et on évoque aussi dans ce film tout ce qui est fauchage de chaises et évasion fiscale. Donc c'est assez riche. C'est 300 heures de rush, 50 jours de tournage, une vingtaine de personnes qui ont été mobilisées quasi bénévolement sur ce film, qui nous ont donné un coup de main. Et l'histoire va commencer, sa diffusion va commencer en février 2017, mais là on a lancé une campagne de financement participative pour nous aider à le sortir en salle. Voilà.
Ouais, juste pour ajouter ce qui nous intéressait en fait dans cette histoire, c'était vraiment de raconter toutes les étapes d'un processus de mobilisation. Comment on fait pas après pas, petite bataille après petite bataille pour mobiliser autour du dérèglement climatique. Et en fait, c'est un mouvement qui est parti de Bayonne à la base en 2013 et est parti de quelques militants en fait. Et du coup, l'histoire, c'est vraiment de comment on déroule le fil de ces quelques militants basques jusqu'à cette grosse mobilisation qui a lieu pendant la COP21. Et donc, c'est vraiment ce fil-là qu'on va essayer de raconter et de dérouler pendant le film.
Alors, vous avez déjà donné des détails, et notamment sur le contenu du film. Donc, on voit qu'il y a énormément de choses. Et là, tu viens d'en parler, de l'origine d'Alternativa. Mais peut-être qu'on peut préciser encore un peu plus ce que c'est pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, qui ne savent pas forcément en fait ce qu'est Alternativa, ce que ça représente et comment c'est né. Alors là, tu viens d'évoquer, mais peut-être donner quelques détails en plus.
Alors, Alternativa, en fait, c'est né d'un collectif qui s'appelle Bici, qui veut dire vivre en basque, qui est basé à Bayonne, et qui, en revenant de la COP qui avait eu lieu, la conférence climat qui avait eu lieu à Copenhague en 2009, se sont dit la société civile doit vraiment se mobiliser pour lutter contre le changement climatique. Et donc, ils ont bâti cette stratégie de créer à la fois ce qu'ils appellent une fusée en trois étages. Commencer par créer un premier village Alternativa qui lancerait, qui mettrait en avant les alternatives. La deuxième étage de leur fusée, c'était de répéter ces villages Alternativa à travers toute la France. Donc ça a eu lieu de 2013 à 2015. Et là, il y a eu plus de 100 villages, en fait, qui sont organisés un peu partout. Et la dernière étape, c'était de pouvoir mobiliser pendant la COP21 l'an dernier. Tout le mois de novembre, décembre sur Paris et d'arriver à faire aussi prendre conscience au maximum de personnes de l'urgence climatique et de l'urgence d'agir.
Et peut-être préciser aussi c'est quoi un village Alternativa. En fait, c'est occuper l'espace public et montrer concrètement à quoi pourrait ressembler en fait un monde libéré des énergies fossiles, un monde plus juste, plus durable. Et c'est de montrer que c'est possible et que ça existe déjà. Donc en fait, le premier village à Bayonne, ils avaient occupé tout le centre-ville, ils avaient vraiment transformé le centre-ville de Bayonne en une ville du futur. Et à la fin d'Alternativa à Bayonne, ils ont lancé un appel pour que se développent 10, 100, 1000 Alternativa. Donc après cet appel, peut-être l'année d'après, là c'était en 2013, en 2014, il y a eu d'autres Alternativa, parce qu'en fait, la force aussi des Basques, c'était vraiment de poser une certaine méthodologie assez rigoureuse, rigoureuse d'organisation. Et en fait, on se rend compte que le processus d'organisation est aussi important que le résultat final. Et donc, du coup, Lille, Nantes, Bordeaux, ils ont repris un peu ce processus, cette méthodologie, et ils ont réussi à mobiliser, pareil, des 10 000 personnes à chaque fois. Et donc l'idée, c'est comme Pascal le disait, c'était après Copenhague, tout le monde avait été vachement déprimé. Enfin nous, c'est ce qu'on nous a raconté, parce qu'à l'époque, on n'était pas du tout sensibilisés à l'urgence climatique. Apparemment, c'était un exploit de réussir à remobiliser en France sur la question du climat. Et donc voilà, ces villages-là, c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Et oui, il y a eu aussi un village à Marseille. Donc ça, c'était dans le prolongement de cet appel-là. Mais au début, nous, on n'avait pas compris en fait ce que c'était que les villages alternatifs. Parce que nous, on avait eu ces échos de Bayonne et on s'est dit, oh là là, encore un énième éco-festival. En fait, quand on a entendu parler de ces villages-là, on était un peu blasés. On croyait plus trop dans les alternatives. On se disait, non, mais en fait, ça va pas assez vite. C'est pour les bobos, etc. Et on n'avait pas fait vraiment attention, tu vois, à cette histoire de premier village. Et puis, c'est surtout quand on est allé à Bayonne en janvier 2015. Donc là, en fait, BC a organisé tout un week-end de formation, en fait, pour des gens de toute la France qui voulaient organiser eux-mêmes des villages. Et ils faisaient 2 jours de formation pour expliquer leur méthodologie, comment ils avaient fait, etc. Et là, on y est allé avec Pascal et on s'est dit, comme on dit dans le teaser du film, « Waouh, il se passe quelque chose ».
Et alors dans le film, vous suivez ces villages à travers la France, si j'ai bien compris? Non, justement vous allez pouvoir préciser. Et tu l'as un peu évoqué, mais en fait on a l'impression qu'il y a tout un tas de choses, les faucheurs de chaises, etc. Il y a tout un tas d'actions. En fait, comment vous êtes orienté là-dedans, dans toute la possibilité des actions et de ce qui se passe en France en fait? Comment à un moment donné vous dites on va là-dessus, on va pas là-dessus?
Alors nous, on n'a pas du tout filmé tous les villages parce qu'en fait, c'était trop compliqué. Nous, on a suivi pendant 1 an et demi, on est parti en fait des Basques. Donc on a commencé à les filmer donc en janvier 2015 quand on les a rencontrés pour la première fois. Et on avait déjà amené une caméra, mais bon, on savait pas trop. C'était un premier essai. Et puis c'est surtout eux qu'on a suivis, quoi. C'est eux le fil du film. Et après, ce qu'on raconte en fait dans le film, c'est la stratégie. C'est la stratégie non violente en fait finalement, qui repose sur 2 piliers, les alternatives et les résistances. Et donc du coup, nous, ce qu'on a filmé, c'est tout leur combat pour faire connaître les alternatives. Donc ils ont fait un tour de France de 5600 km avec des vélos 3 places et 4 places, avec 150 ou 160 ou plus d'étapes, je ne sais plus. Mais donc on a suivi ça. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans ce mouvement, c'est que c'est aussi un processus de, c'est un processus de transformation individuelle et collective. C'est-à-dire qu'ils ont amené des gens qui étaient arrivés par la porte des alternatives, ils les ont emmenés vers la désobéissance civile. Et nous, à Marseille, ce qui était intéressant, c'est que le fait que Godin interdise l'alternativa, ça nous a forcé quelque part à nous positionner. Est-ce qu'on le fait de manière désobéissante ou est-ce qu'on laisse tomber?
Mais alors moi je reviens là-dessus, quand vous êtes dans le film, vous avez des situations d'action, c'est quoi un peu qui se passe dans le film? Alors on va pas tout dévoiler, parce que vous faites aussi une campagne pour de dons, pour avoir un peu d'argent, donc peut-être aguicher l'auditeur, l'auditrice.
Dans ce film, on a filmé le Tour de France depuis un vélo. On a filmé des gens en train de vomir sur un bateau. Non, je rigole, mais c'est vrai en plus, mais on va pas le montrer pour l'intimité. On a réussi par la longueur d'avoir réussi à être parmi eux, vraiment, comme on dit, embarqué, à avoir des pépites pour raconter cette histoire, mais c'est, Sandra est en train de me regarder avec des yeux, oh là là, il est nul, il sait pas parler du film, etc. Non, mais en fait, plus on était proche, plus on a pu avoir d'informations pour pouvoir justement suivre ce qui allait et anticiper ce qui allait se passer. Et tout le travail qu'on avait à faire, c'était surtout d'être là au bon moment, mais comme en photographie, en fait, c'est être là au bon moment, au bon endroit. Et tout ça, c'est tout le travail de documentariste, c'est d'arriver à construire cette histoire. Et pour construire cette histoire, faut bien connaître le sujet, faut bien les connaître, faut bien les pratiquer. Pour être là au bon moment, voilà.
Parce qu'en fait, je crois que j'ai pas fini de dérouler. En fait, on part des alternatives pour arriver jusqu'au blocage de Pau, qui pour moi en fait est aussi un événement très important en termes d'imaginaire, dans ce que ça peut représenter la non-violence, quoi. C'est-à-dire que moi, avant de militer dans ce mouvement, parce qu'on est aussi des militants, je connaissais pas vraiment toutes ces pratiques non-violentes, désobéissance civile, de désobéissance civile, pardon. Et du coup, ça fait sauter des verrous en termes d'imaginaire, quoi. C'est-à-dire que oui, c'est possible. On peut réaliser, parce qu'on est nombreux, on peut réaliser des actions de confrontation. On peut enfoncer un mur de CRS, mais ça, on peut aller faucher des chaises dans les banques. Parce que, en fait, cette conscience de l'urgence climatique fait que, on est prêt à aller faire des choses.
Je reviens encore dessus. Est-ce que c'est quelques. Peut-être, tu as parlé du blocage de peau, des faucheurs de chaises. Je sais pas, peut-être un ou deux moments qui vous ont particulièrement touché dans le film, ou des trucs un peu forts qui sont passés.
Non, mais il y en a énormément. Mais l'exemple avec le fauchage de chaises, c'est si j'étais journaliste, je pourrais pas rentrer dans une banque avec une caméra et filmer à l'intérieur. Voilà. Bon, à partir du moment où on est dans la position de documentariste, on prend ce risque d'aller filmer dans un lieu privé. Parce que en fait, c'est important de le faire, et c'est important de dénoncer l'évasion fiscale et donc d'être avec eux au moment de l'évasion, au moment de l'évasion des chaises. Après, c'est vrai qu'on bascule à un moment, c'est que j'en ai filmé plusieurs et au bout d'un moment, on a envie de partir aussi avec une chaise et une caméra toujours dans la main. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, je filme par exemple. La chaise que je suis en train de pousser puisque j'ai franchi le pas de moi aussi embarquer une chaise. Voilà, ça c'est comment on passe du rôle d'observateur à acteur en même temps, et c'est vrai qu'à Pau c'était pareil avec toute la phase de désobéissance civile et de blocage du sommet des pétroliers. Un moment, on se met en avant aussi parce que, on se met dans le jeu d'agir, puisque dans les images que j'ai filmées, je bouge moi-même devant les conférenciers pour les empêcher de passer, et je joue aussi avec cette caméra, avec la caméra à la main, etc. Puisque du coup, je fais partie en fait des militants. Alors c'est la limite un petit peu de ce qu'on fait, mais c'est aussi une manière de filmer active, voilà. Et puis évidemment, on se fait tous gazer, évidemment. On se prend du gaz poivre sur la caméra, etc. Donc c'est des images qui peuvent choquer certaines personnes qui ont vu déjà une partie du film, notamment sur la partie de peau, nous ont dit on sentait les coups de matraque sur les jambes en sortant de votre projection. Donc c'est vrai que face à la violence policière, on est dedans, on le ressent. En tout cas, ça montre à certains comment ce qui se passe en France actuellement et depuis l'état d'urgence, la répression et depuis aussi la loi travail, où de plus en plus de gens se font gazer, se font matraquer, et puis ça passe un peu inaperçu, voilà.
Et c'est peut-être, Pascal raconte aussi nous notre positionnement en tant que filmeur, comment il a évolué pendant un an et demi, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on est parti d'une position très observationnelle, très extérieure. Et en fait, on est de plus en plus, on est rentré en fait dans l'action et on est devenu nous-mêmes acteurs. C'est pour ça qu'il disait que la caméra elle-même devenait un acteur, puisque en fait, elle protège aussi les militants, quoi. Et du coup, dans les moments un peu forts, moi, j'ai en tête évidemment l'arrivée du Tour Alternativa à Paris à l'occasion de l'Alternativa Paris. Ça, c'était vraiment un moment. Très fort, quoi. Après, c'est 6600 km de tour. Donc ça, c'est un moment fort. Après, évidemment, les deux semaines de la COP, où on a vécu tous ensemble dans un Alice Saint-Denis, dans un QG, un quartier génial, où il y avait 150-200 militants qui étaient là et qui vivaient ensemble pendant deux semaines dans ce QG, dans un gymnase qui avait été prêté par la mairie et qui avait été réaménagé pour l'occasion. Donc ça, c'est des moments très forts. Et puis, évidemment, c'était faire ça sous l'état d'urgence. Il y avait énormément de pression, on était... nous, on s'est fait voler la caméra la veille de la COP, justement, à l'Alice Saint-Denis, vol à l'arraché, et ça a été hyper dur. Le lendemain, on a filmé avec un appareil photo, on a fait appel aux copains, parce qu'on n'avait plus de matos, quoi. Donc ça, c'est des moments un peu durs, quoi, parce que tu te dis, waouh, wow, t'as deux semaines là, hyper, hyper forte à filmer, t'as pas de caméra. On a rebondi, mais faut pas se laisser abattre. Et puis, évidemment, le troisième temps fort, bah voilà, c'est ce, c'est 10 jours de camp climat à Emmaüs Pôle-Escar. Où là encore, pendant 10 jours, ben, on a vécu tous ensemble dans l'Emmaüs qui avait été aussi aménagé pour le camp. Donc il y avait des grandes tentes dortoirs. Enfin voilà, et à chaque fois c'est de la bouffe collective. Et c'est génial en fait parce que ce mouvement, ce que je trouve hyper fort dans ce mouvement, c'est qu'il peut donner sa place à tout le monde, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'aller en première ligne, se faire taper par les CRS. On peut aussi donner un coup de main, faire la bouffe, être à la logistique, être dans le, enfin voilà, on peut. Chacun peut trouver sa place selon son degré de radicalité, et en étant très radical, on peut aussi trouver sa place. Et du coup, c'est ce que offre aussi ce bah, cette posture de la non-violence, je trouve.
Votre film, ou futur film, parce que vous êtes en train de le monter, Irintzina, c'est son nom. Qu'est-ce que ça veut dire? J'imagine que c'est du basque.
Irintzina, c'est un cri ancestral basque, effectivement. Et du coup, c'est un peu la métaphore de ce qu'a fait Bissi. C'est-à-dire qu'ils ont fait un appel, ils ont poussé un cri. Bissi, c'est donc l'organisation qui a lancé tout le mouvement depuis le Pays Basque. Et du coup, on se disait que c'était une bonne manière de leur rendre hommage. Parce qu'en fait, dans le film, on part de ces 5 personnes qui ont lancé ce processus. Et puis, on se détache progressivement d'eux pour vraiment montrer que c'est un mouvement collectif. Bon, alors après, c'est pas évident parce que le spectateur, il aime bien suivre des personnages jusqu'au bout. Comme tu disais, c'est en cours de montage, donc on va voir comment on peut faire. C'est un cri, voilà.
Écoutez le premier teaser sur le site irintzinalefilm.com. Vous entendrez un Irintzina, un chant, voilà. Il y a des concours d'Irintzina, en fait, maintenant, au Pays Basque, mais... Quand on cherche un petit peu, il y a un article très intéressant là par un professeur de l'université de Toulouse. C'est décrit à la fois que ça pouvait être un peu une sorte de cri de guerre, c'est aussi un cri que les bergers se passaient de colline en colline pour se parler. C'est un cri aussi de joie. Voilà, ça prend plein de formes différentes. Et c'est vraiment un cri qu'ils ont aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a appelé ça le cri de la génération climat. C'est un appel en fait qu'ils ont lancé depuis le Pays Basque, un appel à prendre conscience de l'urgence climatique. Et nous, on se fait que relayer par ce film cet appel et à raconter cette histoire de cet appel.
Alors, c'est une question que je pose à tous les gens qui font des documentaires vidéo, parce que je trouve que c'est une question importante. Aujourd'hui, on est aussi dans un monde où il y a énormément d'images, où on est saturé de toutes parts par des formes d'images. Et comment, à un moment donné, vous faites le choix de ce média-là en se disant, ça nous paraît pertinent de faire un film documentaire.
Le film documentaire, pourquoi ce choix-là? Mais c'est pour justement documenter, quoi. C'est-à-dire raconter au plus près de l'intérieur une histoire qu'on a vécue. Pour moi, il n'y a pas d'autre façon de le faire, parce que pour partager en fait ces moments et être à côté d'eux et raconter cette histoire-là, il faut le voir, quoi. C'est pour la mémoire des luttes aussi. Quand tu regardes le traitement des médias classiques que les médias classiques ont fait de ce mouvement, c'est juste hallucinant. C'est-à-dire que le lendemain. Enfin, le soir de la marche, par exemple, du 29, enfin, qui n'était pas une marche, qui devait être une marche et qui finalement était une chaîne humaine, la veille de l'ouverture de la COP, donc la société civile avait décidé de se mobiliser fortement. Donc, suite à l'état d'urgence, donc, les manifestations avaient été interdites. Donc, Havas avait lancé un appel à ce que les gens envoient leurs chaussures place de la République. Donc, ça, c'était le matin. Après, il y a eu donc, cette chaîne humaine de Nation à République. Et puis, il y a eu aussi un rassemblement Place de la République qui a dégénéré. Et bien, en fait, quand tu regardes le JT de France 2 du soir, pas une image de la chaîne humaine. Donc, tu vois les chaussures, tu vois que le pape a envoyé ses chaussures ou que je ne sais plus quelle actrice a envoyé ses chaussures. Tu vois que ça dégénère avec des gens Place de la République. Pas une image de la chaîne humaine. Pareil pour l'arrivée du tour Alternativa. C'est-à-dire que toujours France 2, est venu à l'Alternativa de Paris faire un reportage sur la disco soupe, sans mentionner une seule fois le mot Alternativa ou le terme climat. La disco soupe, en fait, c'est des gens qui font de la récupération et qui cuisinent ensemble, etc. Et France 2 a fait un focus que sur la disco soupe. Et ils n'ont pas du tout parlé des 6600 km, du rassemblement qui avait lieu de l'Alternativa de Paris. Enfin, donc, tu vois. Donc, nous, on a ce rôle-là, quoi. On a ce rôle-là de raconter ça. Bah, parce qu'en fait, les médias, ils n'en parlent pas.
Des films, c'est aussi ce que vous avez l'habitude de faire, en général, dans vos vies. C'est un centre d'intérêt que vous développez depuis longtemps.
Ça fait plus de 10 ans qu'on fait ça avec Focus 21. On a travaillé d'abord sur le commerce équitable pendant 2 ans. Après, on a travaillé sur les alternatives en France avec un autre film qui s'appelait Bonheur National Brut. Et Focus 21, qui est l'association qui porte le projet en fait de départ, qu'on définit par un média citoyen qui crée des liens. Voilà. Et à chaque fois, on travaille en documentaire, photo et vidéo, en faisant souvent un film et après une exposition photo en même temps. Et après, on organise un événement qui est lié avec les sujets qu'on a travaillés, donc en reliant justement les personnes qu'on a filmées et les alternatives locales sur notre territoire.
Ça a déjà été évoqué à plusieurs moments, mais j'ai envie de revenir un petit peu dessus. Là, vous avez bien expliqué tout ce qui a pu se passer à travers toute la France par rapport à ce que vous appelez la justice climatique. Alors peut-être en dire un peu plus là-dessus, parce que la question du climat, c'est aussi lié à des formes sociales existantes, on va dire à une société dans son entièreté. C'est la conséquence, le symptôme de cette société-là. Pourquoi ce choix de justice climatique? Je trouve que c'est assez spécifique aussi comme choix étymologique. Pourquoi c'est cet angle-là qui vous a touché et qui vous touche particulièrement?
Moi, après, il y a un moment qui m'a marqué. Il y a eu une arrivée du tour en fait, à Alternativa à Marseille. Il y a eu une grande vélorution qui a eu lieu dans la ville. Et le soir, on organisait Alternativa à Marseille a organisé un concert sur le cours Julien, qui n'avait eu aucune autorisation de la part de la mairie, au passage. Et le soir du concert, en fait, il y a HK donc, qui chantait devant 2000 personnes sur le cours Julien, et il y a une personne d'origine africaine qui est montée sur scène, qui a pris la parole, qui a pris le micro, et qui a dit merci pour tout ce que vous faites pour mon pays, pour ma famille, etc. Et je pense que il a résumé un petit peu et moi j'ai filmé ce moment-là parce que j'ai trouvé ça très fort que cette personne vienne sur scène et vienne dire merci à tous ceux qui étaient là, parce que voilà, il avait compris que si on se mobilisait, c'était pour aussi que ces personnes qui sont en face de chez nous en Méditerranée ne morfle pas trop, parce que c'est les personnes les plus pauvres, les plus défavorisées de la planète qui vont morfler en premier, quoi. Nous, dans les pays riches, on va s'en sortir, on va s'adapter, on va moins morfler, en tout cas, parce qu'il y a des réserves. Mais toute la question des énergies, fossiles, des énergies, enfin des ressources minières, etc. On sait très bien qu'on a passé le cap du colonialisme par un néocolonialisme qui est en fait du capitalisme qui va pomper les ressources dans tous ces pays-là, qui exploite les populations, qui essaye soi-disant un peu de faire en sorte qu'elles se développent, mais en fait c'est surtout nos pays qui s'enrichissent et notre système qui est en train d'épuiser tout le monde, enfin d'épuiser cette planète. Mais aujourd'hui, avec le dérèglement climatique, en fait, avant c'était loin, tous ces soucis, je dirais, d'exploitation de l'homme par l'homme, mais aujourd'hui en fait on en voit les conséquences par les changements dans nos pays au niveau social, mais aussi au niveau environnemental, et on commence nous aussi à morfler. Donc la justice climatique, là maintenant, c'est aussi les plus pauvres qui vont en morfler, parce que dans nos pays, qui va pouvoir continuer à payer des factures très chères parce que l'énergie va augmenter? Qui est mal isolé? Ben, c'est les gens qui n'ont pas forcément pu mettre des moyens d'isolation. Qui est mal nourri? On le sait très bien, c'est les populations les plus pauvres. Les personnes aisées, en général, elles sont passées depuis longtemps au bio. Hein. Jacques Chirac, il mange bio depuis très longtemps. Et ils ont compris, en fait. Ils ont compris. Mais le truc, c'est comment on fait en sorte que tout le monde en profite et pas juste ceux qui ont de l'argent et qui ont les moyens.
Bon, le film Iritina, le cri de la génération climat, ça coûte de l'argent. On va pouvoir en parler aussi parce que vous faites un appel à dons. Voilà, donnez un peu les détails de ce que ça vous coûte et où vous en êtes de cette campagne de financement, d'autofinancement.
Alors le film, en gros, si on devait comptabiliser tout ce qu'il a coûté, il serait autour de 115 000 euros. Voilà, donc c'est une somme, mais pour un documentaire, c'est pas énorme. Et puis pour un film comme certains l'ont décrit, qui est un mélange entre du reportage d'investigation à la Élise Lucet, à la Demain et à la James Bond, je vous rappelle quand même, un James Bond, c'est 150 millions d'euros. 150 millions d'euros, un James Bond. Donc nous, on demande juste 45 000 euros pour nous aider à le sortir en salle, parce que évidemment, Focus 21 a porté une partie du financement, les dépenses de base, je dirais, qui ont permis le tournage, mais qui sont juste des défraiements et des déplacements. Personne ou très peu de personnes ont été rémunérées sur ce film pour l'instant. On compte le faire justement au niveau de la post-production, où on cherche justement 45 000 euros pour assurer la bonne finalisation du film et sa diffusion vers le plus grand nombre et en cinéma. Donc ça a des coûts. Voilà un petit peu comment ça s'est réparti. Et aujourd'hui, on en est à peu près à 25% de la somme de recherchée. On a levé à peu près 12 000 euros à ce jour sur les 45 000 qu'on recherche. Voilà. Et on en a jusqu'au 1er décembre pour participer au financement participatif, qui se fait d'ailleurs sur la plateforme de la NEF, ZEST. La plateforme de la NEF, qui est une banque éthique et qui n'est pas la plus connue, je dirais, de toutes les banques pour l'instant, mais de toutes les plateformes. On a fait vraiment ce choix aussi délibéré de ne pas aller sur les plateformes concurrentes, parce que pour nous, ça nous semblait évident de le faire avec eux, de la même manière que nos ordis sont reliés à Enercop. Alors c'est sûr que c'est pas révolutionnaire, mais si chacun déjà commence à faire son petit pas chez soi et se relie avec les autres, on passera de l'effet de niche à l'effet de masse. Voilà.
Juste pour ajouter que ce film, il n'aurait jamais pu se faire sans l'entraide et la solidarité de beaucoup de gens qui sont venus nous filer des coups de main pendant un an et demi sur le tournage. Et bon, alors je ne vais pas lister tous les médias qui ont participé, mais vraiment, on les en remercie fortement. Et c'est grâce à eux si on a pu tourner ce film. Maintenant, c'est vrai qu'on a des moyens, parce que ça, on a pu faire ça quasiment tout bénévolement pendant un an et demi. Mais la post-production et la diffusion coûtent cher. Et on n'a pas mis autant d'énergie pour que ce film il reste confiné dans des projections militantes. On a vraiment envie que ce film sorte de nos cercles militants. Et pour ça, il faut quand même un peu de moyens pour que le public ait accès à ce film. Quoi.
Là, vous l'avez évoqué rapidement, mais ça veut dire que vous êtes une équipe sur ce film ou vous êtes deux, il y a des gens qui vous aident? Ça se passe comment?
Alors le film Iritina, le cri de la génération climat, a été tourné en fait avec une vingtaine de personnes. Principalement, c'est vrai que c'est moi qui étais derrière la caméra en tant que chef-op, mais et Sandra au son et à la réalisation. Pendant le tournage, on avait souvent une deuxième équipe, une troisième équipe pour des moments forts. Donc pour filmer les actions, pour filmer ce genre de choses, pour avoir des caméras à la fois dans l'action et qui suivent nos personnages, donc là c'était plutôt moi, et après qu'il y ait des images d'ensemble et des images aussi des actions avec un autre point de vue, quoi. Donc sur Pau par exemple on était trois, sur Paris on a eu les images de cinq caméras au final pour arriver aussi à dynamiser le montage et faire en sorte que le film soit vraiment dynamique et qu'on soit dedans, quoi. Après sur le reste, la post-production, en fait on va faire appel à des spécialistes pour nous aider pour faire l'étalonnage, pour faire l'étalonnage des images, pour faire un vrai mixage professionnel au niveau du cinéma, parce que qu'on passe en auditorium. On va faire aussi appel à un compositeur avec qui on travaille, Romain Desjonquers, qui travaille depuis nos deux, enfin sur nos précédents films, qui lui est compositeur. et va apporter aussi cette couche-là en plus au documentaire. Et puis sur la distribution, on est en train de rechercher aussi une entreprise proche de nos valeurs qui puisse distribuer le film en France. Donc voilà, parce que ça, on ne sait pas faire et il faut faire appel à des spécialistes pour ces travaux-là, quoi. Voilà. Principalement, c'est ça. Après, Focus 21, c'est une petite structure. Et volontairement, on a choisi de pas grandir, pas grossir, pour maîtriser en fait tout ça et éviter d'avoir trop de contraintes aussi financières.
Et ben pour finir, on peut peut-être redonner les adresses pour le fonds participatif, s'il y a des gens qui ont envie de vous soutenir, et éventuellement, pourquoi pas, l'adresse aussi de Focus 21. Je ne sais pas si c'est les mêmes sites internet ou pas.
Alors vous avez tout en fait qui est disponible sur le site irintina-le-film.com, donc irintina-le-film.com. De là, vous pouvez accéder à la plateforme Zest de financement participatif, et puis aux images, aux teasers qu'on a déjà réalisés. Il y en a déjà 3 qui sont en ligne, et puis on en publie en fait toutes les semaines, on publie un teaser. Et dans les prochains, on va aussi publier pas que des teasers de 2-3 minutes, mais aussi du contenu, parce que comme vous pouvez l'imaginer, tout ce qu'on a filmé, on a aussi énormément de matière qui mériterait aussi d'être diffusée. Donc le financement participatif va nous permettre aussi, on l'espère, de pouvoir mettre ça à disposition de tout le monde. Voilà, donc un film augmenté, en fait, c'est ce qu'on a envie de faire maintenant avec cet outil. Pas forcément sous forme d'un webdoc, mais en tout cas un site augmenté où vous pourrez aussi consulter les interviews dans leur intégralité, d'autres choses, d'autres images qu'on n'a pas mises dans le film. Et ça, pour ça, on a aussi besoin de temps, on a besoin de moyens pour le faire, parce que c'est important aussi que ce contenu-là soit connu. Et puis pour les auditeurs de Radio Zinzine qui seraient sur Aix le 3 novembre, il y aura une projection d'une partie du documentaire qui sera projetée au 3C en soirée, donc c'est un mardi 3 novembre. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, on sera présent. Le 3C, c'est un café culturel de Aix, c'est l'équivalent de l'Équitable Café mais sur Aix, voilà. Et puis aussi n'hésitez pas aussi à suivre l'Odyssée des Alternatives, qui est dans la prolongation de tout ce mouvement Alternativa. L'Odyssée des Alternatives, elle, qui a lieu en ce moment, qui part de Barcelone cette semaine et qui arrivera au Maroc pendant la COP22 pour défendre trois points importants: la justice sociale, l'immigration et le climat. Voilà.
L'Odyssée des Alternatives qui est présent aujourd'hui, samedi 22 octobre, à la Seyne-sur-Mer, c'est ça, je ne me trompe pas.
Avant l'Italie.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci.
Et de retour en direct sur BAM Radio, et on finit ces informations avec les nouvelles du Kurdistan comme chaque semaine. Alors c'est les nouvelles de la semaine dernière, puisqu'on n'avait pas pu les diffuser et que cette semaine, eh ben, la personne n'a pas pu nous envoyer les dernières nouvelles. Bonne soirée sur les ondes de BAM Radio.
Si du Rojelat, Kurdistan de l'Est, en Iran, au Bakur, Kurdistan du Nord, en Turquie, les répressions à l'encontre des Kurdes continuent, les résistances, elles aussi, se poursuivent. Au Rojelat, Kurdistan de l'Est, l'année 2016 est une année particulièrement répressive. Le 6 octobre dernier, sur ordre du ministère du Renseignement, les maisons de près de 40 Kurdes résidant à Bukhan, ville située à l'ouest de l'Iran, ont été perquisitionnées par les gardiens de la Révolution. Ils et elles ont ensuite été battus, avant d'être arrêtés puis transférés dans un endroit pour l'instant encore inconnu. Au Bakur, les habitants et habitantes de la ville de Chorner sont en proie à une grande vulnérabilité. La ville est presque complètement détruite après les 8 mois de couvre-feu militaire imposé par l'État turc. La population vit actuellement dans des tentes alors que l'hiver approche. Aucune organisation n'est dépêchée sur place pour leur venir en aide. 5 nouveaux couvre-feux militaires ont été imposés à Tetouan et l'armée turque continue de bombarder le mont Kandil, tuant ainsi 2 membres de la guérilla du PKK, les forces de défense du peuple, à Erzincan, sous les bombardements. L'audience pour le média Med Nouche, initialement prévue pour le 12 octobre à 11h30, a été reportée. La chaîne a été interdite de diffusion la semaine dernière par le groupe français Eutelsat. Le 10 octobre a eu lieu un rassemblement en hommage aux 103 victimes et 500 blessés de l'attentat survenu à Ankara l'année dernière, tués lors d'une manifestation pour demander l'arrêt de la guerre au Kurdistan. Lors de la commémoration, la police turque a gazé les participants et participantes et tiré des balles en caoutchouc. Cette semaine, près de 180 membres des partis HDP et BDP, respectivement le Parti démocratique des peuples et le Parti démocratique des régions, dont 5 coprésidents de partis locaux et 56 coprésidents de districts, ont subi des arrestations. Elles ont eu lieu à Ahmet, Wan, Jolemer, Kers et Bedlis. De plus, peu après avoir été libéré le 7 octobre dernier après 6 mois de détention, le coprésident du parti kurde DBP, Kamuran Yüksek, est à nouveau menacé d'emprisonnement. Il a été arrêté le 10 mai dernier, avec 13 autres personnes, pour appartenance à une organisation terroriste armée. Le procureur a fait objection contre la libération du coprésident du BDP, en soutenant que Kamuran Yüksek a des activités d'organisation illégale. Dans la prison de Manisa, des chambres de torture ont été mises en place contre les Kurdes. Des plaintes ont été déposées par les familles des détenus, mais elles sont toujours sans réponse. Le Parti de la Justice et du Développement, AKP, le parti au pouvoir, entame une procédure pour faire passer des pratiques de l'état d'urgence dans la loi. Parmi ces pratiques, on peut notamment évoquer la possibilité pour la police de prendre des déclarations sans demander le décret du procureur, la suppression de la lecture de l'acte d'accusation à voix haute, la confiscation des biens et des ordinateurs sur ordre du procureur, et la suppression de l'inscription des noms des officiers dans les rapports des personnes arrêtées, qui vont être remplacés par des numéros. Cependant, les résistances se poursuivent. Le groupe d'activistes Red Hack a fait fuiter les courriels du ministre de l'Énergie, le gendre du président Recep Tayyip Erdogan, en menaçant ce dernier de publier massivement le reste des informations s'il ne libérait pas les prisonniers et prisonnières politiques kurdes et turques de gauche. Recep Tayyip Erdogan a refusé et bloqué l'accès aux sites de stockage Google Drive, Dropbox et OneDrive. Cependant, ce sont plus de 57 000 courriels qui ont été rendus publics par le groupe Red Hack. Le 13 octobre, la guérilla du PKK, les forces de défense du peuple, ont tué 11 soldats turcs dans une opération menée à Djeleh et Shemzinan. Enfin, du côté de la jeunesse, des enfants kurdes se sont mobilisés et ont réalisé une vidéo dans laquelle il et elle demandent la réouverture de la seule chaîne de télévision en kurde pour les enfants, Zarok TV. Cette chaîne de télévision a été fermée la semaine dernière par l'État turc.